Dans le cadre du doctorat en histoire de l'art que je mène actuellement, je m'intéresse à la façon dont le vivant, dans les expositions et collections muséales, peut être un vecteur de changement sur le musée, ses pratiques, ses acteurs, mais peut également faire l'état de changements plus larges. L'apparition du vivant dans les expositions dès les années 1930 est suivie d'un accroissement exponentiel à partir des années 60. L'usage du vivant dans les musées au XXe et au XXIe siècle est déterminant. Il transcrit des préoccupations et des bouleversements tant muséaux que sociétaux. Ma communication d'aujourd'hui se penche sur un cas d'exposition qui sera traité dans ma thèse et de deux autres avec lesquels j'ai trouvé pertinent de le mettre en perspective afin de souligner leur complémentarité. Il s'agit des expositions de Pierre Huyghe au Centre Pompidou en 2013-2014, intitulée simplement Pierre Huyghe et dont vous pouvez voir des images à l'écran, de la Documenta 13 de Cassel dont le projet s'intitulait Untilled, et enfin de After a Life Ahead, présenté à School Tour Project de Munster en 2017. Elles sont, à mon sens, particulièrement emblématiques en raison de leur participation à la redéfinition de l'exposition ainsi que des rapports interespèces grâce aux vivants. La singularité de ces expositions réside dans le fait que l'artiste y rassemble tant des objets que des êtres vivants. Qu'il s'agisse de Human, une chienne à la patte droite rose fluo, d'un Bernard l'ermite évoluant au sein d'un aquarium avec la réplique de la muse endormie de Constantin Brancusi, de Player, un humain portant un masque lumineux, de cellules cancéreuses humaines, d'algues, ou encore d'une statue de style classique dont la tête est recouverte d'un essaim d'abeilles en activité, tout dans ces expositions participe à l'élaboration d'un écosystème hybride, aux limites floues, émouvantes, où humains et non-humains sont envisagés de façon globale, interrogeant ainsi les rapports interespèces. On peut donc s'interroger sur l'impact de ces expositions. Dans le contexte événementiel qui caractérise nos sociétés, est-il possible que ces expositions provoquent un impact plus fondamental et traduisent un possible effritement de la dichotomie nature-culture que développent certains discours écologiques, sociologiques ou encore anthropologiques à l'ère de l'Anthropocène ? À travers ses œuvres et ses expositions, l'artiste dessinerait-il un modèle prospectif des relations au vivant ? Donc d'abord, les œuvres sont envisagées comme microcosme et l'exposition comme écosystème. J'évoquerai ensuite la place du public dans les expositions et enfin l'hybridité qui nous mènera pour finir à la question de l'altérité. Alors, parmi les microcosmes, on peut évoquer entre autres, Zoodrame 4, dans lequel un Bernard l'ermite aborde la miniature en résine de la muse endormie. Ce n'est ni une reprise naturaliste à proprement parler, ni vraiment un décor, mais bien un microcosme aquatique, avec ses propres lois et ses propres logiques. Des rochers flottent à la surface de l'eau, des roches telluriques rouges jonchent le fond de l'aquarium, et en plus du Bernard l'ermite, des crabes et des araignées de mer cohabitent. Cette œuvre, les autres microcosmes aquatiques des expositions, et d'une façon générale, les trois expositions que je présente aujourd'hui, sont un parfait exemple de la notion d'Umwelt, développée très largement par Jacob von Weckskull dès 1934, où il fait le lien entre les environnements, les marqueurs et les porteurs de signification qui sont instinctivement captés par les animaux qui n'hésitent pas à s'en emparer. Pardon. Et c'est particulièrement vrai avec le Bernard l'ermite. Donc dans le cadre de ces expositions, l'artiste déployait donc des écosystèmes au sens littéral, c'est-à-dire un environnement dans lequel des espèces vivent et évoluent, un système autorégulé. Dans sa taxinomie des différents modèles d'exposition, l'historienne de l'art Marie Fraser définit comme écosystème une exposition qui, en rassemblant autant les objets que les organismes et les êtres vivants, repousse le plus les limites de l'exposition pour ce qui est de la relation entre l'espace et le temps. Et si les œuvres de Pierre Huyghe existent de façon autonome, force est de constater qu'elles deviennent agissantes, entrent en relation les unes avec les autres et se contaminent dans ces expositions écosystèmes. Les œuvres s'autogénèrent et évoluent en suivant un rythme biologique qui leur est singulier, en plus de prendre pleinement part à celui des différentes expositions. Le son de certaines œuvres, comme la musique émanant des vidéos, le bourdonnement des abeilles, le bruit de la patineuse sur la glace, leurs mouvements, comme la croissance, le déplacement ou la disparition, ainsi que leur temporalité, s'entrecroisent alors. Aucune œuvre ne se plie ni aux règles de l'exposition, ni à celles du public. Les œuvres et les liens évoluent, ils apparaissent et disparaissent au fur et à mesure de l'exposition. Cet écosystème de l'exposition est donc autre, prospectif. Ainsi, par exemple, la tortue de la Documenta 13, dont vous avez des images de l'exposition à l'écran, avait sans doute une autre idée en tête que celle de participer à l'exposition. Elle a rapidement disparu et très peu de personnes ont eu l'opportunité de la voir. Dans un entretien, le philosophe Quentin Meillassou évoque d'ailleurs à propos du travail de Pierre Huyg une autre sociabilité de l'œuvre, qui n'est donc pas toujours disponible en raison de ses caractéristiques organiques et incontrôlables. Si la notion d'écosystème semble plus évidente pour la Documenta, les deux autres expositions n'en demeurent pas moins organiques. Sol de béton de patinoire, sable, argile, eau phréatique, bactéries, algues, abeilles, paons, aquarium noir, verre commutable, conus textile, incubateur, cellules cancéreuses humaines, algorithmes génétiques, pluie et ammoniac sont autant de composantes de l'installation After Alive Ahead, déployée l'été dernier dans l'ancienne patinoire de Moonstar. Comme vous pouvez le voir, les montagnes de terre argileuse étaient peuplées d'abeilles. On retrouvait pêle-mêle des crevasses, des têtards, des terres pleines de béton. Au plafond, des panneaux triangulaires s'ouvraient et se fermaient, laissant pénétrer la lumière du jour. Et dans un aquarium, son habitant, un conus textile, mollusque venimeux. Le rythme de cette installation était déterminé par des capteurs mis en mouvement par le vivant. Par exemple, c'est le coquillage qui commandait l'ouverture et la fermeture des puits de lumière. Des capteurs non visibles enregistraient le mouvement du paon et des abeilles, ainsi que le niveau de CO2 et de bactéries dans la patinoire. Un algorithme utilisait ces données pour calculer la vitalité moyenne dans l'espace, puis transmettait l'information à un incubateur contenant les cellules cancéreuses et là, qui, selon l'activité perçue, augmentait ou ralentissait sa production de cellules. Enfin, on peut aussi spécifier que les expositions présentées s'inscrivent pleinement dans le concept d'anthropocène que le météorologue et chimiste Paul Crutzen a théorisé au tournant des années 2000. Ce concept désigne l'ère géologique dans laquelle nous vivons, caractérisée par l'impact irrémédiable de l'activité humaine sur la Terre. En effet, la dimension prospective des expositions fait d'une certaine façon écho au bouleversement que l'humain génère, notamment sur les écosystèmes. Et le concept d'anthropocène a pour spécificité de rendre caduques les catégories de nature et de culture, puisque les deux se retrouvent durablement et inextricablement liés, l'impact de l'homme étant global et aucun espace n'y résistant. Chez Huyg, les rapports interespèces ne se jouent pas uniquement au sein des œuvres présentées. En effet, le public n'est pas seulement regardeur, mais peut être aussi regardé par les autres visiteurs, par les autres êtres vivants, mais aussi par les œuvres. Il est dans l'exposition et en cela agit dans l'écosystème. Il peut interagir avec certaines œuvres. Il est en situation et devient acteur de son parcours et de l'exposition en raison du rôle qui lui est conféré. C'est lui qui remplit la fonction discursive laissée à la fois vide et ouverte par l'artiste. Le public qui déambule dans les expositions génère des liens entre les œuvres, mentalement ou physiquement, en voit certaines et pas d'autres. Chaque personne voit donc une exposition unique et elle est différente en raison du temps et de l'évolution des œuvres, mais aussi en raison de l'espace et de leur circulation. Donc le public devient d'une certaine façon aussi témoin de l'exposition. Pour revenir à l'exposition du Centre Pompidou, elle regroupait une cinquantaine d'œuvres présentées sans distinction et sans cartel, certaines étant préexistantes ou faisant écho à des œuvres antérieures, d'autres réalisées in situ, et enfin certaines n'étant pas de l'artiste. L'intervention de Pierre Huyg consistait à disséminer des œuvres évoluant de façon concomitante et continue, brouillant ainsi toute tentative de parcours muséographique. L'artiste déclare notamment à propos de l'œuvre Name and Answer, et ça fait écho à beaucoup de choses dans l'exposition, « Les gens sont annoncés lorsqu'ils entrent dans la galerie. Ils arrivent et donnent leur nom, qui est ensuite dit à voix haute. Leur nom est jeté dans l'espace. Ils se retrouvent ensuite dans un espace peuplé où transitent d'autres entités. » Il n'y a pas grand-chose à faire. On peut s'ennuyer, mais une relation s'établit, dans la mesure où soit l'on écrase les fourmis, soit on les évite. Or, cette œuvre ne se contente pas d'annoncer les visiteurs, elle va bien au-delà, elle l'expose et l'inclut dans l'écosystème. Parmi la redéfinition du format de l'exposition et de la notion de public, on peut aussi évoquer des œuvres qui sont mises à hauteur de chien, par exemple, abrogeant ainsi la spécificité de l'accès à la culture au seul humain et l'un des truismes les plus ancrés de l'histoire de l'art. Il n'y a donc pas animaux humains d'un côté et animaux non humains de l'autre chez Pierre Huyg, mais un seul l'écosystème englobant et une considération large, dans lequel Human, par exemple, devient à la fois public et partie prenante de l'exposition. Elle crée, par sa simple présence, des relations physiques et mouvantes entre les œuvres. En outre, le fait qu'aucune de ces créations vivantes n'ait de fonction précise vient corroborer davantage l'idée de frontières floues à travers l'absence de place dans la scala naturelle. Bien que chaque œuvre ait son fonctionnement propre, aucun système n'est prédéterminé, toutes les créatures sont là avec ce qu'elles ont d'hybridité et ont la possibilité d'agir ou non en ayant un impact direct sur l'exposition. Donc, comme on a déjà pu l'apercevoir, la faune des expositions de Pierre Huyghe est hybride, c'est là des aspects récurrents de son travail. Elle a des limites floues et aussi entre anthropomorphisation et zoomorphisation. Le processus d'anthropomorphisation, c'est-à-dire le fait d'octroyer à un animal ou à une chose un aspect ou un comportement humain, apparaît dans certaines œuvres comme Zoodrame 4 qu'on a déjà évoqué. Et tout au contraire, on trouve dans certaines œuvres de Pierre Huyghe des cas de zoomorphisation, c'est-à-dire qu'elles octroient aux humains des traits ou des caractéristiques habituellement animales, comme le cas de l'humain à la tête d'aigle qui déambule dans l'exposition du Centre Pompidou. On ne peut alors s'empêcher d'y voir une forme de mythologie. Les œuvres de Pierre Huyghe font penser aux formes hybrides qui ponctuent œuvres et bestiaires de l'histoire de l'art. Ces œuvres sont bien connues pour leur caractère ironique et dénonciateur, ou encore utilisées pour évoquer des analogies de caractère ou de comportement avec les espèces, comme ça a pu être évoqué dans les conférences précédentes. De surcroît, l'hybridité s'incarne aussi via le masque et l'idée de travestissement, qui est très présente ici, et qui brouille encore davantage les frontières. Le masque ne serait donc peut-être pas une façon de se cacher, mais peut-être au contraire une façon de dévoiler d'autres caractéristiques. Cette hybridité ou absence de césure entre les espèces passe aussi par d'autres biais, dont l'un des exemples les plus emblématiques est la chienne à la patte avant droite teinte en rose. Cette hybridité est d'abord suggérée par sa dénomination, human. Elle l'est aussi à cause de cette patte d'un rose très intense qui vient rompre l'harmonie de son corps en créant une fragmentation très nette, géométrique, et qui lui confère un caractère presque artificiel, rompant avec sa nature première. L'hybridité réside donc tant dans les formes que dans les êtres, et lorsque l'humain apparaît dans son œuvre, il est souvent intégré dans un réseau plus complexe. Il faut aussi noter que ce réseau inclut, sur un plan d'égalité avec unité de coopération, d'autres organismes humains, eux vivants, comme les non-humains, les plantes ou les objets. Par ailleurs, le vivant chez Huyghe ne concerne pas seulement l'organique, mais doit se comprendre dans un champ très élargi, incluant des matériaux a priori immuables, s'éloignant ainsi de la conception de la vie qui prévaut dans nos sociétés. En créant et en laissant évoluer des situations, l'artiste rend caduque de nombreux repères relatifs à l'œuvre ou à l'exposition qui ici se contaminent. On peut lire en introduction au catalogue de l'exposition Zoo, qui s'est tenue au Musée d'art contemporain de Montréal en 2012, que, je cite, « Si les œuvres sont l'occasion pour certains artistes de questionner notre rapport au monde animal, elles peuvent aussi, inversement, trouver dans la figure de l'animal la source d'une interrogation plus large sur notre rapport au monde. On peut donc se demander de quelle façon les expositions de Pierre Huyghe incarnent-elles les transformations qui affectent notre société. » Les dessins préparatoires des expositions sont éclairants à cet effet. Ils traduisent l'influence, assumée par l'artiste, qu'ont pu avoir les théories de l'acteur réseau ou de l'ontologie plate sur son travail. Tout est en flux, en réseau, et l'importance est donnée aux relations. On peut voir en effet que l'artiste révèle les flux entre une œuvre surréaliste, un pan et un coquillage, et que les véritables actions occupent la même place sur le schéma que les liens de prime abord moins évidents. On peut noter par ailleurs que le vivant y occupe une place prédéterminante. C'est la même chose pour la documenta dont voici le schéma qui est un petit peu moins clair. Ainsi, dans l'œuvre de Pierre Huyghe, il n'y a aucun système prédéterminé, aucun régime spécifique, ce qui induit un plan d'égalité, notamment entre le virtuel et le réel, l'objet et le vivant, et dans lesquels les choses se meuvent. L'artiste ouvre des possibles qui ne sont pas futurs, mais simplement autres et en flux. Dans son essai intitulé « L'esthétique relationnelle », Nicolas Bourriaud rappelle d'ailleurs que « l'activité artistique s'efforce d'effectuer de modestes branchements, d'ouvrir quelques passages obstrués, de mettre en contact des niveaux de réalité tenus éloignés les uns des autres. » Or, c'est justement ce qui est ici à l'œuvre, notamment lorsque l'artiste introduit du vivant dans un musée ou qu'il réalise une exposition dans une ancienne patinoire en y introduisant abeilles, coquillages et cellules cancéreuses. Les expositions questionnent les relations existantes. Elle pourrait être perçue comme une traduction de la remise en cause du dualisme nature-culture, au sens où l'entendent Calon et Latour. Par ailleurs, la notion d'acteur-réseau développée par ses auteurs met l'accent sur la médiation, puisque selon cette théorie, tous les médiateurs sont des acteurs. Or, dans ces expositions, tout participe à l'élaboration de ce réseau complexe de médiation, créant ainsi des identités et des relations mouvantes. L'idée de permettre à d'autres territoires d'exister, une formule que j'ai empruntée à la commissaire d'exposition, se traduit également par l'injonction faite par Pierre Huyck de considérer l'altérité plutôt que la hiérarchisation, comme cela apparaît clairement dans ses expositions. D'abord par le pli de l'hybridité que l'on a détaillé, mais aussi par la prise en compte d'espèces considérées comme nuisibles ou peu appréciées. Par exemple, les invertébrés ou les espèces de petite taille, les araignées ou les fourmis pour ne citer qu'elles. Elles sont mises sur le même plan que l'humain. Ainsi, une colonie de fourmis, nommée d'ailleurs Umwelt, revêt la même importance dans l'écosystème de l'exposition et sur les supports de médiation qu'une femme faisant du patin à glace. Et des cellules cancéreuses, un pan et les vestiges d'une patinoire étaient mis sur un plan d'égalité à Munster. Cette remise en cause des hiérarchies et des catégories, domestiques, utilitaires, nuisibles, etc., souligne une porosité et un déplacement des conceptions en mettant l'accent sur les singularités. Pardon. L'altérité rejoint aussi l'idée d'exposition organique évoquée un peu plus tôt, et ce notamment à travers l'idée de compost. Lors de la documenta, l'exposition était installée sur le compost du parc où elle se déroulait. Or, étymologiquement, compositus désigne un mélange d'éléments organiques et non organiques en vue d'un changement d'espèce et où l'on passe constamment de mort à vivant mais sous une autre forme. Aussi, ces expositions laissent entrevoir que l'entrée dans l'anthropocène et l'écocide qui est en cours pourrait mener à un mélange, à une hybridité des espèces ou à une reconsidération des caractéristiques purement animales ou humaines. En conclusion, on remarque à travers ces études de cas que le glissement de la représentation à la présentation du vivant laisse entreapercevoir certains changements profonds quant à la conception de l'animalité, faisant apparaître une faune hybride et un étrange bestiaire. L'historien de l'art Giovanni Aloi, qui dans son travail aborde la question des rapports entre l'art et l'animal, souligne d'ailleurs l'émergence de paradigmes et de pratiques esthétiques ayant pour but de contester sur le fond l'anthropocentrisme et la réification dans l'art de l'animal dans l'art. On remarque en effet que chez Pierre Huyck, lorsqu'il fait appel au vivant, c'est aussi pour proposer une relecture de ces schémas. En outre, le recours à la figure animale est un moyen percutant, permettant de pointer certains dysfonctionnements dans la société. Historiquement, elle renvoie aux représentations animales qui intervenaient dans des périodes critiques, marquées notamment par un contexte politique ou social difficile. Et Nicolas Bourriaud, toujours dans son esthétique relationnelle, rappelle que dans le domaine de l'art actuel, les œuvres ne se donnent pas pour but de former des réalités imaginaires ou utopiques, mais de constituer des modes d'existence ou des modèles d'action à l'intérieur du réel existant. Or, vu le contexte écologique, sociologique et politique, on peut imaginer que l'art a peut-être un rôle à jouer en révisant les relations interespèces. Cette tentative de reconceptualisation du rapport humain-non-humain dans certaines œuvres et expositions pourrait être perçue d'une certaine façon comme un questionnement ou une remise en cause de l'anthropocentrisme, des dualismes et des réductions au statut de choses qui en découlent. Car en effet, si l'art a participé à la formation de la conception naturaliste du monde, il y a fort à parier qu'il pourrait également être un acteur de son effritement. Pierre Huyck, en définissant de nouvelles relations au vivant et en provoquant des détournements, révèle d'autres subjectivités qui pourraient en tout cas y participer. C'est impossible parmi d'autres.